Salut, c'est Lucia de la 5ème 3. Aujourd'hui, je vais présenter cette émission qui est sur le thème de la Saint-Valentin. Comme dans de nombreuses fêtes, elle vient de la religion chrétienne. Dans notre cas, c'est Valentin, un chrétien qui a été décapité par les Romains en 270, qui est le héros de notre fête. Mais quel rapport avec la fête des amoureux ? Elle vient d'une fête romaine, les Lupercales, qui célébrait l'arrivée du printemps. Pour cela, un tirage au sort était fait pour unir durant l'année un garçon et une fille. Je laisse la main à Camille.
Salut, c'est Camille. Effectivement, après des recherches sur business.com, j'ai lu qu'en 2023, seulement 34% des gens comptaient fêter la Saint-Valentin et que la majorité des personnes trouvent que ce n'est qu'une fête commerciale. Les personnes les plus séduites par la Saint-Valentin ont souvent entre 35 et 44 ans. Les gens qui souhaiteraient la fêter ont un budget d'environ 145 €, soit 28 € de plus qu'en 2022 et 40 € qu'en 2021. Lorsque les journalistes ont interrogé les Français, ils ont conclu que le top 3 de ce qui était le plus acheté en 2023 est en troisième position des bijoux, en seconde position des parfums et en première, bien évidemment, des fleurs. Si comme la majorité des Français, vous comptez acheter des fleurs, écoutez d'abord ceci car chaque fleur a sa signification. La rose rouge veut dire « amour » avec un grand A. On dit même que plus le bouquet est gros, plus l'amour est profond. Le gaïeul propose un premier rendez-vous. Le lilas mauve symbolise la poésie et veut dire « mon cœur ne voit que vous ». Le lilas blanc, aimons-nous, et le mimosa exprime la sécurité. Mais si vous vivez une nouvelle relation, pourquoi pas le muguet qui évoque le printemps, donc le renouveau.
Merci Camille, maintenant c'est à mon tour, j'ai moi-même fait une enquête de terrain. Bien que l'âge dit que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, il n'empêche que la Saint-Valentin est devenue au fil des années une fête qui donne le sourire aux commerçants. Parce que désormais, montrer son amour se traduit par un petit cadeau. C'est pourquoi nous nous sommes baladés au collège pour vous demander ce que vous pourriez offrir à votre Roméo ou à votre Juliette. C'est parti !
Livre drôle !
Les livres, c'est un classique. Ça reste un bon choix. Car il y en a pour tous les goûts. L'humour, comme on vient de l'entendre, mais on peut aussi cibler sur la romance, c'est la grosse tendance en ce moment. Ou encore bien les BD, les mangas. Allez, d'autres propositions.
Je pense qu'à mon Valentin, je lui offrirai des fleurs.
Une petite rose.
Oh, je lui offrirai des roses parce que c'est classique, c'est beau et tout.
Eh bien Camille, je pense que ton témoignage confirme ce que tu as lu sur internet. Les roses sont le cadeau facile à trouver, pas trop cher et symbole du romantisme. Elles ont tout pour plaire. Pour finir, quelques dernières suggestions.
Moi, je lui offrirais une lettre et un parfum.
Pas sûr que tout le monde y pense, mais c'est trouvé scientifiquement, nos souvenirs les plus forts sont olfactifs. On se rappelle tous d'une odeur associée à un moment. Un joli parfum, ça peut être la bonne idée. Mais pour nous, un bon cadeau, c'est celui qui est personnel. Donc une lettre, une carte écrite avec sincérité et humour. Et certainement les moyens le plus sympathiques et loin de considérations commerciales. Maintenant, je laisse la parole à Naomi.
Bonjour, je suis Naomi, et parce que tout le monde ne rentre pas dans le modèle Saint-Valentin, j'ai décidé de vous parler d'un sujet peu connu, le syndrome de la solitude chronique, bien présent dans notre société, alors que nous sommes une génération très connectée. Alors, c'est quoi la solitude chronique ? Dans un article du blog Psychocop de 2023, on apprend que 10 à 30% de la population avoue se sentir seule de temps en temps et ou en souffrir. La solitude est donc un ressenti, indépendant de sa situation réelle, cela veut dire que l'on peut être entouré par des amis, sa famille, des collègues, etc. et pourtant mal le vivre. La solitude chronique est une forme plus forte. Les personnes qui en souffrent se sentent isolées, incomprises, peu écoutées ou valorisées. Souvent, ces mêmes personnes se coupent alors des autres, pensant que, de toute façon, personne ne les acceptera. Bref, peu à peu, elles n'ont plus aucune relation sociale et cela renforce leur sentiment de solitude. C'est le serpent qui se mord la queue. Évidemment, il existe plusieurs formes de solitude chronique. Cela dépend des situations personnelles, des caractères des uns et des autres. Les psychologues analysent 7 cas. La solitude liée à des changements de vie. Par exemple, on déménage, on change de collège et il faut retrouver un groupe d'amis. La solitude amoureuse, elle est due au besoin des humains d'avoir des liens de tendresse, de réconfort, d'affection avec l'autre. La solitude liée au sentiment que l'on n'existe pas, que personne n'a de temps à nous consacrer. La solitude liée au sentiment d'être différent, que personne ne nous comprend. Alors, pour tous ceux qui se sentent parfois seuls, j'espère que cette rubrique vous apportera des réponses. Et puis, rien ne vous empêche en cette Saint-Valentin de vous faire plaisir à votre façon. Partagez un bon moment en famille, avec des amis, avec son chien ou son chien préféré.
Maintenant, je laisse la main aux trois sportives du groupe Web Radio.
Salut, c'est Joanne, Mila et Marilou. À votre avis, quelles sont les activités qui permettent le plus de partager des moments à deux? Si on vous dit le patinage artistique, le tennis, la danse, vous voyez certainement avec le lien avec l'émission du jour. En effet, tous ces sports se pratiquent à deux, pour le plaisir ou en compétition. Je vais maintenant laisser la place à Joanne.
Pour rester dans le thème du jour, je vais vous parler de la danse de salon, qui est le sport auquel on pense quand on parle de sport en couple. C'est à la fois une discipline artistique et sportive. Même si elle a été popularisée par l'émission Danse avec les stars, qui connaît vraiment cette discipline? En compétition, on parle de danse sportive. Elle se distingue entre les danses latines et les danses standards. Chacune a ses propres règles. Ainsi, les danses standards se dansent en position fermée. Ça veut dire que la danseuse se trouve dans les bras de son partenaire et se caractérise par des tours autour de la piste. Dans cette catégorie, on trouve le quick step, le tango, le foxtrot, la valse viennoise, c'est la danse des princesses lors des bals, et la valse anglaise. Du côté des danses latines, on a le cha-cha-cha, la rumba, la samba, le paso doble et le jive. Comme leur nom l'indique, ces danses sont souvent nées de la rencontre entre les cultures espagnoles, créoles et africaines. Mais loin des caméras de TF1, les danses sportives nécessitent des heures d'entraînement pour acquérir les bons pas et les bons gestes. C'est le cas de Melvin Blo et de Fanny Coutaz, espoir en danse standard en 2023 et champion de France des 16-18 ans en 2022, qui racontent que la danse, c'est tous les jours de la semaine, 2 heures d'entraînement après leur cours. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, en piste, Mila.
À sa façon, le couple dont je vais vous parler a aussi un joli jeu de jambes. Chacun de leur côté, ils ont été de grands champions durant leur carrière, sur terre battue, gazon ou terrain synthétique. Une idée quant à l'identité de ce couple de légende, amoureux depuis plus de 20 ans?
Non.
Si on vous dit tennis?
Non plus.
Alors, quand l'heure de la retraite a sonné, l'Américain André Agassi et l'Allemande Steffi Graf ont décidé de s'unir à la ville comme sur les terrains, puisque les deux joueurs se sont mariés le 22 octobre 2001, et c'est désormais sous les yeux de leurs enfants Jaden et Jazz qu'ils partagent leur amour du tennis en participant à des matchs d'exhibition, comme en 2018 sous la Tour Eiffel. Un retour gagnant dans la capitale qui leur a porté chance, puisque c'est en 1999 qu'ils ont échangé des pas de danse dans une soirée qui célébrait leur victoire respective au tournoi de Roland-Garros. Comme quoi, la danse, ça rapproche. Tu es du même avis, Marilou?
Tout à fait, puisque sur le podium des sports à faire en duo, amoureux ou pas, il y a le patinage artistique. Que ce soit la danse sur glace ou le patinage en couple, dans les deux cas, les compétitions sont mixtes. Il y a de la musique lors des épreuves et des portées. En France, grâce au champion olympique français Gabriel Papadakis et Guillaume Cizeron, le patinage artistique en couple a fait la une. Ils sont partenaires depuis l'âge de 4 ans et si... ils ne sont aujourd'hui plus en couple, leur duo fonctionne toujours. Les deux disciplines sont très exigeantes et la confiance entre les partenaires est essentielle, en particulier pour le patinage artistique en couple, qui comprend de nombreuses figures acrobatiques, par exemple les levées en twist.
Mais c'est quoi ?
C'est quand l'homme soulève sa partenaire au-dessus de sa tête et la lance en l'air, et ce n'est pas fini. Elle fait 3 rotations avant d'être rattrapée et posée sur la glace. Mais il y a aussi toutes sortes de lancers, de sauts, de pirouettes. Vous vous demandez peut-être comment ils font pour ne pas se faire mal en tombant lors de leurs entraînements. Eh bien, c'est parce qu'ils ont des coussins.
Des coussins?
Oui, ce sont des rembourrages dans les vêtements pour amortir les chutes et limiter les blessures.
Et voilà, merci les filles pour ce petit agrément sportif. Maintenant, je laisse la main à Maëlys et Clara pour leur Quiz in Love.